100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
L'Europe est vieillissante, 23% de la population en Italie est âgée de 63 ans et plus. C'est presque le même constat en Allemagne ou en Finlande. Comment, dans ce contexte, renouveler les institutions et le personnel politique dans de nombreuses démocraties européennes? Le défi est majeur. Mais la Lituanie pourrait bien donner l'exemple. Dans ce petit pays des États baltes, voilà une semaine qu'un gouvernement inédit est en place. Inédit car pour la première fois, l'équipe est composée de personnes qui n'ont pas connu l'ère soviétique et de beaucoup de femmes sur 14 ministres. 6 sont du sexe faible. À la tête du Parlement, une championne d'échecs de 37 ans. Le Premier ministre est une Première ministre, Ingrida Simonite, ancienne ministre des Finances à 46 ans. Cette nouvelle équipe va-t-elle réussir à insuffler un nouveau souffle? Notre correspondante Marielle Vituro est allée poser la question.
À tout juste 30 ans, Roma Zabrauskas est un cinéaste engagé. Ses films abordent l'homosexualité, la question de sa reconnaissance dans la société. Il voit d'un bon œil cette nouvelle génération qui prend le pouvoir.
C'est génial, c'est vraiment la première fois dans ma vie que je vois les gens dans le Parlement qui me représentent, qui partagent les mêmes idées.
Pour Dalila Inarte, historienne et spécialiste des questions de genre, ce renouvellement politique est logique.
Il a été favorisé à la fois par l'arrivée d'une nouvelle génération de personnalités politiques, mais aussi par l'arrivée d'un nouveau parti. Le Parti de la Liberté a fait campagne sur des thèmes qui n'avaient presque jamais été évoqués avant et qui concernent des parties de la société, comme la communauté LGBT, qui avait toujours été laissée de côté.
Au sein de ce nouveau gouvernement de droite, la parité est presque parfaite. Sur les 14 ministres, 6 sont des femmes. Dans une interview donnée à BNS, l'agence de presse lituanienne, la conservatrice Ingrida Šimonytė, la nouvelle chef du gouvernement, explique les raisons de son choix.
Dès le début de la campagne électorale, j'ai voulu que les femmes en général, que les femmes politiques soient plus visibles que jusqu'à présent. J'ai corrigé la liste de candidats du parti autant que possible pour qu'il y ait plus de femmes qui se présentent dans les 20 premières. Il me semble que c'est le devoir de femmes, comme moi, pour montrer par l'exemple que nous existons dans cette société.
Ces 4 dernières années, dans un pays presque exclusivement dirigé par des hommes, les droits de la femme ont été mis de côté, notamment la protection des femmes victimes de violences conjugales. Il n'existe que très peu de solutions pour les accueillir dans des endroits sûrs. Mais aujourd'hui, Evelina Dobrovolska, la nouvelle ministre de la Justice de ce gouvernement, est confiante.
La Lituanie doit encore ratifier la Convention d'Istanbul sur la protection des droits des femmes. Elle doit promouvoir l'égalité des genres. Comme les femmes sont nombreuses dans ce gouvernement, elles vont mettre ces sujets à l'ordre du jour et enfin se faire entendre.
Le cinéaste militant et engagé Roma Zabrauskas, de son côté, met beaucoup d'espoir dans ce renouvellement politique et il espère que la crise sanitaire ne soit pas un prétexte pour ne pas agir.
Quand même, on continue à vivre, on continue à être discriminé. J'attends la décision pour le PAX, version lituanienne. C'est déjà le compromis entre l'égalité de mariage et rien qu'on a maintenant. Et aussi la décriminalisation de cannabis.
Le bond en avant aura-t-il vraiment lieu? Les femmes vont-elles désormais s'inscrire dans la vie politique au plus haut niveau dans la durée? L'historienne Dalia Leinartė n'en est pas sûre.
Au Parlement, il n'y a que 27% de femmes. C'est peu si on compare aux moyennes européennes et il n'y a pas eu de bond en avant. Et aux prochaines élections, nous n'aurons pas plus de femmes car les deux partis libéraux et le parti conservateur sont contre le système de quotas de femmes.
Reste que le crédit de confiance accordé à cette nouvelle équipe est immense au sein de la population. Dans le programme de son gouvernement qu'elle a présenté devant les députés, la première ministre Ingrid Achimonite n'a cependant pas mentionné ni le pacte d'union civile, ni de nouvelles mesures pour favoriser l'égalité homme-femme, ce qui lui a valu des critiques. Rien n'est gagné, mais une fois la crise sanitaire passée, le tissu associatif compte donc bien repasser à l'offensive pour obtenir des avancées sur ses droits fondamentaux.
Et puisqu'on parle de femmes, il en est une qui est particulièrement populaire en Europe. Angela Merkel, record de longévité à la chancellerie en Allemagne, a prévu de ne pas se représenter aux prochaines élections législatives. Le 26 septembre prochain marquera donc la fin de 16 années au pouvoir de celle qu'on surnomme Mutti, maman. Bonjour Julien Méchaussy.
Bonjour Léa Lisa.
Vous êtes notre correspondant à Berlin, Julien, et en Allemagne, le temps semble ne pas avoir d'emprise ni sur la chancelière, ni sur sa popularité. Sa succession est donc loin d'être évidente.
Avec une cote de popularité qui frise les 75%, une gestion de la crise sanitaire saluée par ses homologues européens, Angela Merkel pourrait sans problème rempiler pour 4 ans de plus. Et les Allemands signeraient tout de suite dès demain, mais avec 4 mandats et le record de longévité à la chancellerie d'Helmut Kohl battu, Mutti, maman, comme elle est affectueusement surnommée ici, a annoncé son retrait de la vie politique pour 2021. Et alors que la lutte contre le coronavirus a fait passer au second plan sa succession, les candidats et candidates potentiels fourbissent pourtant leurs armes en coulisses, sans personnalité qui se dégage, capable de suppléer une chancelière qui a su guider le pays à travers tant de crises, crise financière de la fin des années 2000, crise des réfugiés et aujourd'hui crise sanitaire.
On a en effet l'impression qu'aucun responsable politique n'ose se dévoiler complètement comme possible successeur.
En tout cas, personne qui semble avoir la carrure pour prendre le relais, alors que les sociodémocrates misent sur l'austère ministre des Finances Olaf Scholz. Chez les Verts, personne ne s'est encore risqué à présenter sa candidature. Le seul qui trouverait grâce aux yeux des Allemands est Markus Söder, le ministre-président de Bavière, plébiscité notamment pour sa gestion de la pandémie. Celui-ci répète cependant à l'envi qu'il n'est pas intéressé. Et au sein du parti d'Angela Merkel, les chrétiens démocrates de la CDU, ils sont 3 sur les rangs. Le ministre-président du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, Armin Laschet, Friedrich Merz, un conservateur ultra-libéral qui représenterait une véritable cassure avec le style Merkel, et Norbert Röttgen, un proche de la chancelière. 3 pères de famille, 3 catholiques de l'ex-Allemagne de l'Ouest, soit tout le contraire d'Angela Merkel et une porte qui semble se refermer pour les femmes de la CDU.
Merci Julien Méchaussy, à bientôt. Comment faire pour encourager les jeunes à participer à la politique? L'Autriche a tenté de répondre à cette question en abaissant l'âge du droit de vote à 16 ans, et ce, dès 2007. L'objectif à l'époque, freiner l'abstention grandissante des jeunes. 13 ans plus tard, la jeunesse est-elle devenue une force politique dans cette petite démocratie d'Europe centrale? Élément de réponse avec le reportage de notre correspondante à Vienne, Céline Béal.
Un Autrichien qui a voté dès l'âge de 16 ans a aujourd'hui 30% de chances en plus de retourner voter aux élections suivantes. Est-ce à dire que la jeunesse est devenue une force politique? Non, parce qu'elle est une minorité dans un pays vieillissant et que beaucoup de jeunes qui vivent ici n'ont pas la nationalité autrichienne, donc pas le droit de vote. Tamara Hess est politologue à l'Université de Vienne, spécialiste des questions de démocratie et de la participation des jeunes.
Lors de l'élection régionale et municipale à Vienne, on a vu que la moitié des personnes qui ont le droit de vote ont plus de 50 ans. C'est avec cette classe d'âge que les élections se gagnent. Ça se voit dans les thèmes de campagne des partis.
Conséquence ? La nouvelle génération se rabat souvent sur des petits partis qui ne sont pas représentés au Parlement. Leurs votes sont donc perdus. Parmi les partis établis, ce sont encore les plus extrêmes qui captent le mieux le vote des plus jeunes. L'extrême droite du FPE d'un côté, même si elle connaît en ce moment une crise, et le Parti vert à l'autre extrémité du spectre. Aux dernières législatives, en 2019, les Verts ont recueilli 14% des suffrages, mais presque le double parmi les moins de 30 ans.
Je pense vraiment que ce qui est décisif, c'est surtout que nous parlons de thèmes d'avenir, comme la crise climatique ou la justice sociale.
Barbara Nessler, députée du Parti écologiste,
ce sont ces sujets qui sont surtout importants pour les jeunes, car nous n'avons pas le droit d'oublier que la politique que nous faisons aujourd'hui détermine le monde de demain.
Barbara Nessler est porte-parole jeunesse de son parti. À 29 ans, elle siège depuis l'année dernière au Parlement autrichien. Sa formation politique n'a pas de stratégie particulière pour séduire dans les cours d'école et de lycée. Pas de chaîne sur le réseau social TikTok, à la différence par exemple du FPE. Dans les locaux d'une organisation qui s'appelle YEP, Voix de la jeunesse. YEP s'écrit YEP pour Youth Empowerment and Participation. Comité restreint, toujours en raison de la pandémie, deux jeunes femmes tiennent une réunion pour discuter d'un nouveau projet. Amina Guggenbichler a 19 ans.
On a vraiment le besoin de changer les choses et de participer de manière active, mais on ne nous donne pas de possibilités. Moi, personnellement, j'ai le sentiment qu'on n'a personne vers qui se tourner, qu'on ne sait pas si on va être entendu ou pas du tout. On n'a pas de moyens palpables de participer activement au processus de la société. C'est pour ça que c'est méga cool que Rebecca ait initié YEP.
Rebecca Dober, 29 ans, a fondé cette start-up sociale il y a 2 ans, presque jour pour jour, avec l'idée d'aider les jeunes à faire entendre leur voix dans le jeu démocratique.
C'est évidemment très bien que les jeunes puissent voter dès 16 ans, mais la participation, ce n'est pas seulement d'aller voter. La participation, ça se joue au quotidien, tous les jours. C'est de pouvoir donner son avis et être partie prenante des décisions et de leur mise en place. Et il y a beaucoup trop peu de possibilités pour cela. Et puis, beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ce qu'ils pourraient faire. On manque d'éducation à la démocratie. D'un côté, on n'en parle pas assez en cours. De l'autre, c'est de toute façon quelque chose qui s'apprend le mieux quand on en fait soi-même l'expérience.
Avec 6 collègues, elle monte des ateliers, lance des sondages, travaille avec des écoles, des centres de jeunesse. Amina Guggenbichler fait partie d'un groupe qui a organisé une suite de consultations publiques sur 1 an pour faire un état des lieux des revendications que les jeunes de sa ville pourraient avoir. Racisme, éducation, transparence, pauvreté, voilà le genre de thème qui se retrouvent dans leur manifeste présenté avant les dernières élections aux responsables politiques locaux. Elle essaye maintenant de continuer l'aventure sous la forme d'un podcast.
Avec ce podcast, nous voulons d'un côté sensibiliser la vieille génération aux thèmes qui nous intéressent, les leur expliquer, et de l'autre, nous voulons aussi donner du pouvoir aux jeunes, selon l'idée de l'empowerment, leur donner du courage et leur dire qu'ils ne sont pas seuls avec leurs soucis. On espère que ce projet sera bientôt sur pied.
Selon la politologue Tamara Hess, la République autrichienne est une république de partis. Ce sont eux qui concentrent le pouvoir. Pourtant, les deux jeunes femmes dans les locaux de YEP rejettent ces structures trop rigides, trop idéologiques, selon elles. Elles pensent que les citoyens doivent faire de la politique dans de nouveaux creusets et au-delà des vieux clivages partisans.
Et c'est l'heure de retrouver nos confrères du Courrier International. Bonjour Virginie Lepetit.
Bonjour Léa Lisa.
Vous nous parlez aujourd'hui de votre dernier numéro de l'année consacré à l'amour et aux stratégies ingénieuses des amoureux pour se retrouver en temps de pandémie. Mais vous publiez également un article qui revient sur les débuts d'Angela Merkel, la chancelière allemande, qui termine actuellement son 4e et dernier mandat.
Oui, c'est bien ça. C'est un article de Ostsee-Zeitung, un quotidien de Rostock, en ex-Allemagne de l'Est. Et il revient sur une rencontre en mode nostalgique, car les Allemands se préparent à élire une nouvelle chancelière ou un nouveau chancelier en septembre prochain. Et donc, c'est l'histoire de la rencontre en 1990, juste après la réunification allemande, des pêcheurs de l'Aube à la pointe sud-est de l'île de Rügen, dans la mer Baltique, avec celle qui n'est pas encore chancelière à l'époque. Angela Merkel mène campagne pour les législatives. Elle a encore une coiffure raplapla qui n'en est pas une, dit l'article, mais elle porte un intérêt sincère aux gens. Et cela se voit dans son regard, dit le journal, qui publie également la photo de cette visite devenue légendaire en Allemagne.
Qu'est-ce qu'on voit sur cette photo?
Alors, on voit la future chancelière attablée avec 5 pêcheurs. Elle est restée 2 heures en leur compagnie. Elle a bu de l'eau de vie. Elle les a écoutés. Et ils ne le savent pas encore, mais 1 mois après, elle va être élue députée au Bundestag et dans la foulée, nommée ministre des femmes et de la jeunesse par le chancelier Helmut Kohl.
Alors, à moins de 15 jours de la sortie officielle de l'Angleterre de l'Union douanière européenne, vous publiez également un édito du quotidien eurosceptique The Telegraph. Son titre, Adieu l'UE et bon déclin.
Oui, c'est Alistair Heath, le rédacteur en chef du quotidien, qui, à l'approche du 31 décembre et donc du Brexit, prend la plume pour dire au revoir à l'Union européenne. Et très logiquement, il ne cache pas son soulagement, mais aussi son amertume. Charles de Gaulle avait raison, dit-il, le Royaume-Uni n'aurait jamais dû entrer dans l'UE. Il dresse un bilan extrêmement sombre de ces années européennes, pendant lesquelles, affirme-t-il, ce qui avait été présenté comme un projet économique libéral a en fait servi un projet politique. Il y a des mots extrêmement durs. Nous étions une île à part, et pour rentrer dans l'Union, nous avons transformé notre économie, et nous avons jeté aux orties notre système politique et le pacte démocratique qui nous unissait, le peuple et le gouvernement. Nous avons perdu en excentricité, nous sommes devenus plus cartésiens, plus rationnels. Jamais nous ne nous remettrons de cette adhésion à l'UE, aussi interminable que débilitante. Mais le Brexit, si dur soit-il, sera néanmoins pour le Royaume-Uni un choc salutaire, propre à sortir le pays de sa stupeur, selon l'éditorialiste.
Je vous propose de rester dans l'Union européenne, puisque vous nous emmenez également explorer les nuits folles de Zagreb, et ce, malgré le Covid.
Oui, nous avons suivi le journaliste du quotidien croate Jutarnji List dans son reportage, au cours d'une virée nocturne et clandestine au cœur de Zagreb, dans des caves, bien cachées derrière des portes cochères et des escaliers en colimaçon, la fête bat son plein. On ne peut y entrer qu'en montrant patte blanche, et le journaliste découvre, je cite, un régal de musique, d'alcool, de drogue, un lieu de débauche, comme au beau vieux temps d'avant l'épidémie. D'heure en heure, de soirée en after, il poursuit la fête, avec enthousiasme, il faut bien le dire, avec un abandon total des mesures sanitaires. Ce n'est pas Zagreb, raconte-t-il, c'est Berlin des années 2000. La foule, les gens collés serrés, les lasers, toute génération confondue, une centaine de personnes, corps bougeant dans une sorte de transe, les mains en l'air battant sauvagement au rythme de la musique. La fête ne finira pas avant 15 heures. Ce que l'article ne dit pas, c'est combien de personnes ont attrapé le Covid-19 cette nuit-là.
Oui, on s'en doute. Merci Virginie. Ces sujets et bien d'autres sont à découvrir dans le numéro de Courrier International de cette semaine, dédié à l'amour au temps du Covid-19. À bientôt Virginie.
À bientôt.
C'est vendredi, c'est l'heure musique. Decorate, celebrate, we'll make this all so special. Making plans to last the season through. Have a good Christmas time. Et c'est avec vous, Vincent Théval. Bonjour.
Bonjour, Léa Lisa.
Noël approche et vous nous avez concocté de quoi retrouver l'esprit de la fête, Vincent.
À l'issue d'une année particulièrement chaotique, rien de tel pour retrouver un semblant de sérénité qu'un retour à l'une des traditions les plus sympathiques de la saison, celle des chansons de Noël. Il y a bien sûr les classiques du genre, mais le corpus s'étoffe régulièrement de compositions originales signées par des musiciens de tous horizons. Cette année, le label anglais Memphis Industries a proposé à 10 artistes de son catalogue d'enregistrer des chansons de Noël pour un album caritatif intitulé Lost Christmas. Et parmi eux, The Cornshed Sisters, quatuor féminin écossais, signe un très beau Have a Good Christmas Time.
Have a good time, drink up the wine, walk in the winter sunshine, and as you go, wish well for snow.
C'était The Cornshed Sisters avec Have a Good Time, Christmas Time sur RFI. Axel. 100% d'Europe, à la réalisation Laurie Plisson. Vous nous retrouvez à toute heure et partout sur notre site rfi.fr et de nouveau en direct en 2021, dès le 1er janvier. D'ici là, bonne fête.